avez déjà eu le courage d'ouvrir ce beau livre qui est le catéchisme de l'Église catholique. C'est un ouvrage que Jean-Paul II nous a donné en 1992 et qui a été revu dans une édition officielle en 98. Alors je vous recommande d'acheter plutôt l'édition de 98 parce qu'il y a des coquilles, des centaines de coquilles qui ont été revues. Et quand on travaille le texte dans un ouvrage, dans un travail scientifique, il vaut mieux citer l'édition de 97-98. Oui, là, c'est la première édition. Mais elle est bonne aussi, mais...
Elles sont importantes, ces coquilles ?
Oui, parce qu'il y a des... Il y a parfois plus que des coquilles. Alors, si vous voulez, avant d'en reprendre notre travail, on va confier ces heures de travail à l'Esprit-Saint, à la Sainte-Vierge, demander cette lumière nécessaire pour accueillir aussi la lumière du magistère avec foi. Que l'Esprit Saint nous aide aussi à accueillir la totalité du mystère de notre foi, le credo, puisque c'est le thème de notre session. Et pour rendre compte de l'espérance qui est en nous, comme dit Saint Pierre. C'est-à-dire nous pourvoir d'outils qui sont utiles dans la transmission de la foi pour pouvoir justement répondre aux questions qui nous sont posées, parfois des questions redoutables. Alors nous allons aborder, je vous donnerai un plan tout à l'heure. Avant, je voudrais justement tourner les pages du catéchisme avec vous pour voir comment fonctionne le catéchisme. Mais d'abord, la constitution apostolique par laquelle le pape Jean-Paul II a promulgué le catéchisme, ce sont les toutes premières pages, la constitution Fidei Depositum, le dépôt de la foi. Alors Jean-Paul II commence par dire que, à la demande des évêques du monde entier, à la suite du Concile Vatican II, il y a eu donc la mise en route de la constitution de ce gros travail. Vous voyez vers le cinquième paragraphe, j'ai convoqué le 25 janvier 85 une assemblée extraordinaire du synode des évêques à l'occasion du 25e anniversaire de la clôture du Concile Vatican II. Et le but était de célébrer les grâces et les fruits spirituels de ce concile. En ces circonstances, les pères du synode ont émis le vœu que soit rédigé un catéchisme. Donc à la suite du synode extraordinaire qui célébrait le 25e anniversaire de la clôture du concile. Dès la clôture du synode, j'ai fait mien ce désir, estimant qu'il répond tout à fait à un vrai besoin de l'Église universelle et des Églises particulières. Et alors, c'est une équipe qui a été constituée autour du cardinal Ratzinger. En 1986, j'ai confié à une commission de 12 cardinaux et évêques, présidée par le cardinal Ratzinger, la tâche de préparer un projet. Alors, il y a eu des allers-retours entre le secrétaire principal de cette commission, qui était le père Schönborn, qui est venu travailler ici, le père Schönborn, qui est dominicain et qui était professeur au Theresianum, enfin, qui était professeur à l'université de Fribourg, plutôt, et qui est venu quelquefois travailler à Notre-Dame de Ville. Alors la matière en quatre parties. Vous voyez la distribution de la matière. Les quatre parties sont liées les unes aux autres. Le mystère de la foi et le mystère chrétien est l'objet de la foi, première partie, credo. Mais cette foi est célébrée et communiquée dans les actions liturgiques, la liturgie, les sacrements. Donc le credo, la deuxième partie, les sacrements, la liturgie. Troisième partie, comment nous agissons chrétiennement, la morale chrétienne, la troisième partie, et la prière chrétienne, organisée autour de notre Père. Donc chacune des parties est volumineuse, hein. La première partie, vous avez repéré peut-être, mais prenez la première partie dans vos doigts, vous voyez, entre vos mains, vous voyez, la première partie, c'est ça, le catéchisme. Et nous allons forcément regarder un peu de près certains aspects de cette première partie, mais on ne peut pas tout approfondir. Mais enfin, vous voyez, le credo, il s'étend sur toute cette première partie. Et enfin, la valeur doctrinale de ce texte. Alors, c'est le plus important. Catéchisme de l'Église catholique, que j'ai approuvé le 25 juin 1992, et dont aujourd'hui j'ordonne la publication en vertu de l'autorité apostolique. Donc c'est un texte promulgué en vertu de l'autorité suprême du pape Jean-Paul II. Ça n'arrive pas tous les ans qu'on publie un catéchisme de l'Église catholique. Le précédent a été fait à la suite du Concile de Trente. Déjà 4 siècles. Donc, un événement extraordinaire et pour toute l'Église. Alors, Jean-Paul II joue de son autorité suprême, est un exposé de la foi de l'Église et de la doctrine catholique, attesté et éclairé par l'Écriture sainte, bien entendu, la tradition apostolique et le magistère ecclésiastique. Donc, vous allez voir remonter dans le texte constamment, les sources bibliques. Les pères de l'Église, les docteurs et les conciles. Constamment. Et c'est un tissu de textes des trois dimensions. L'Écriture sainte, la tradition des pères et des docteurs et des conciles œcuméniques, jusqu'au Concile Vatican II inclusivement, bien entendu. Et aussi, le magistère ecclésiastique, ça vient jusqu'à Jean-Paul II inclusivement. Ce texte ne contient pas, par exemple, certains textes du Concile de Jean-Paul II, parce qu'en 92, bien sûr, Jean-Paul II était encore en plein magistère, en plein ministère. Donc il y a des textes qui ont été publiés ensuite et qui ne sont pas, hélas, dans le catéchisme. Ah, mais en tout cas, il y a des textes fondamentaux du magistère de Jean-Paul II, qui remontent dans le catéchisme. Jean-Paul II est cité dans ce texte un nombre incalculable de fois. Moi qui connais un petit peu le magistère de Jean-Paul II, je peux vous dire qu'il y a des textes qui sont référencés, mais aussi énormément de textes qui ne sont pas référencés. On sait très bien, quand on connaît les textes du pape Jean-Paul II, on connaît. Donc les grandes encycliques sont référencées, mais certaines audiences, certaines homilies ne sont pas référencées. On reconnaît pourtant donc le texte de Jean-Paul II. Je le reconnais comme un instrument valable et autorisé au service de la communion ecclésiale et comme une norme sûre pour l'enseignement de la foi. Une norme sûre. Un texte normatif. Je sais bien que dans certaines universités, dans certains milieux, hein, lorsque vous citez ce texte, eh bien vous perdez un demi-point dans votre travail. Peut-être qu'on n'aime pas les normes dans les facultés de théologie. C'est une norme. Le catéchisme de l'Église catholique est normatif. C'est le plus grand texte de Jean-Paul II. Évidemment, il y a des lieux où on s'est employé vraiment à écarter la doctrine de Jean-Paul II, en particulier sur le mariage. Puisse-t-il servir au renouveau auquel l'Esprit Saint appelle sans cesse l'Église de Dieu? Vous voyez un petit peu plus loin. Je demande donc aux pasteurs de l'Église et aux fidèles, les évêques qui sont concernés au premier chef, hein, de recevoir ce catéchisme dans un esprit de communion et de l'utiliser assidûment. Assidûment. Et je peux vous dire que lorsque j'ai professé cette session que nous allons faire maintenant au Québec, il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir en face de moi des personnes qui m'ont dit récemment, il y a quelques années, mais on n'avait jamais entendu parler d'un catéchisme de l'Église catholique. De l'utiliser assidûment en accomplissant leur mission d'annoncer la foi est appelé à la vie évangélique. Et il insiste, le catéchisme leur est donné afin de servir de texte de référence sûr et authentique pour l'enseignement de la doctrine catholique et tout particulièrement pour la composition des catéchismes locaux. Il veut apporter un soutien aux efforts œcuméniques en montrant avec exactitude le contenu et la cohérence harmonieuse de la foi catholique. Avec exactitude. Bon. Alors, le catéchisme de l'Église catholique, comment est-il composé? Et comment allons-nous l'utiliser? Eh bien, je vous invite à prendre la page autour de la page 50, si je pense. En tout cas, c'est au numéro 185. C'est avant le numéro 185. Vous avez une page, un texte qui n'a pas de numéro, et c'est le credo. Le credo. Et vous avez en deux colonnes le symbole des apôtres à gauche et puis le credo de Nicée-Constantinople à droite. Alors, le credo, le symbole des apôtres, c'est le texte qui va fournir le plan du catéchisme de la première partie. Alors, vous prenez à la fin de votre catéchisme, vous avez le plan. Alors, prenez votre table des matières et prenez le je crois en Dieu, la première partie, la profession de la foi. Donc, je crois. Et prenez donc la deuxième section, la profession de la foi chrétienne, les symboles de la foi. Ça va, tout le monde y est? Alors, vous voyez les titres principaux des chapitres. Chapitre 1er, je crois en Dieu le Père. Ensuite, Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, parmi lesquels il y a l'homme, bien sûr. Je crois en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Vous y êtes? qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Vous voyez, c'est le credo du symbole des apôtres. C'est le symbole des apôtres qui est décliné, là dont on suit l'ordre. Il a souffert sous Ponce Pilate, l'article 4. Hein? Il est mort, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté aux cieux. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Ça va? Donc, c'est la structure du symbole. Le symbole des apôtres. Je crois à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Donc vous voyez, c'est la structure de la première partie. Elle est prise sur la structure du symbole des apôtres. Seulement, qu'est-ce que nous allons faire du credo de Nicée-Constantinople? Qu'est-ce que dit le credo de Nicée-Constantinople que ne disait pas le symbole des apôtres? Le credo de Nicée-Constantinople a été mis au point à l'occasion du concile de Nicée, de Constantinople. Alors, quand vous les avez en parallèle, hein, on peut voir qu'est-ce qui est dit de plus sur le Dieu créateur. Dans le symbole des apôtres, il est dit simplement « créateur du ciel et de la terre ». Mais dans le symbole de Nicée-Constantinople, on va ajouter « créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible ». Et est-ce que le catéchisme va honorer cet apport du symbole de Nicée-Constantinople. Ou bien, est-ce que, par exemple, en considérant l'article sur Jésus-Christ, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, vous allez voir de longues précisions que le credo de Nicée-Constantinople a ajouté. Qu'est-ce qu'il a ajouté? Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Tiens, pendant 200 ans, on ne disait pas né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu. Lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Pourquoi cette insistance sur l'identité du Fils? Et est-ce que le catéchisme va honorer cet apport du credo de Nicée-Constantinople? Oui? Est-ce que vous le voyez? Non, il n'y est pas. Alors c'est là qu'il faut pénétrer maintenant dans le texte. Il faut aller dans le texte. Au numéro, à la page 98, donc allons-y tout de suite. Non, c'est ça. Mais là, à partir de la table des matières, c'est l'article en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, article 2, donc sur environ de la page 96, voilà. Alors si on feuillette, je vais vous laisser faire ce travail de feuilleter cette partie de la christologie, mais un peu partout, le rédacteur a eu le souci Ça se voit surtout dans l'article 3 à partir du numéro 456. Le rédacteur a eu le souci, justement, d'insérer à l'intérieur de la structure du symbole des apôtres les apports du symbole de Nicée-Constantinople. Et vous allez pouvoir le vérifier. Évidemment, nous allons entrer maintenant dans les explications théologiques. Et au fur et à mesure que vous relirez le texte du catéchisme, vous direz, ah ben oui, ce qu'on fait en théologie au cours de cette session nous aide à comprendre effectivement toutes les nuances que le symbole de Nicée-Constantinople apporte. Bon.
D'ailleurs, à l'article 3, paragraphe 1,
voilà. Oui. Dites-nous plus précisément. Dites-nous, Paulette. Mais qui s'est fait homme? Ça, c'est dans le symbole des apôtres, déjà. Oui, oui, c'est repris. Oui, c'est bien ça. C'est le symbole des apôtres qui fournit la structure essentielle. Nous sommes d'accord là-dessus. Mais je vous défie de trouver, justement, ce qui est dit dans le credo de Nicée-Constantinople au sujet du Fils unique, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu. Est-ce qu'on le voit, ça?
En fait, au numéro 465,
oui.
Enfin, moi, ce que je comprends, c'est que ça répond aux premières hérésies.
Voilà.
Donc, tout ce qui s'est passé entre les apôtres, et voilà, au fur et à mesure des siècles, soit envahir la divinité, soit envahir l'humanité.
Voilà.
D'où la nécessité de préciser.
Voilà.
Voilà. Oui, c'est ça, 465
et suivant.
469, c'est
voilà, c'est dans ces paragraphes-là que effectivement va remonter, on va honorer les apports du concile de Nicée-Constantinople et donc qui sont passés dans le credo de Nicée-Constantinople. Ça va jusqu'ici? Si vous voulez, je voudrais maintenant vous montrer un petit peu comment tourner les pages du catéchisme, comment utiliser ce texte. Mais rapidement, parce qu'on va maintenant entrer dans l'épaisseur de... Alors, prenons par exemple le numéro 30. Le numéro 30 du catéchisme. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Psaume 105, verset 3. C'est un tout petit prélèvement que nous faisons pour voir un peu la richesse de la composition. Et voir comment nous comporter aussi par rapport à la structure, comment le rédacteur a structuré ces choses. Donc nous avons une citation de l'Écriture sainte. Si l'homme peut oublier ou refuser Dieu, Dieu, lui, ne cesse d'appeler tout homme à le chercher pour qu'il vive et trouve le bonheur. Mais cette quête exige de l'homme tout l'effort de son intelligence, la rectitude de sa volonté, un cœur droit, et aussi le témoignage des autres qui lui apprennent à chercher Dieu. Et vous avez un petit paragraphe qui est en caractère plus petit. Tu es grand Seigneur et louable hautement. Et on cite Saint Augustin. Vous remarquez qu'en marge, sous le chiffre 30, vous avez trois petits chiffres qui sont en italique. Ces trois petits chiffres indiquent que il y a une pensée qui se trouve sur la ligne, la deuxième ligne par exemple, qui est reprise au numéro 2567 et au numéro 845. Et à la quatrième ligne, il y a une pensée, il y a une affirmation qui est reprise au numéro 368. Prenez, pour vous donner un peu le vertige, hein, prenez le numéro 33. L'homme, avec son ouverture à la vérité et à la beauté, et là, si vous restez au numéro 33, eh bien, vous en restez à une première affirmation. Tandis que le numéro 2500 et le numéro 1730 vous amènent dans la section, quelle section? 2500. La section 2500, qu'est-ce que c'est? Pardon? Voilà. Mais c'est ça, la grande section sur la morale chrétienne. Et le numéro 1730. 1730. C'est la section aussi sur la vie dans l'esprit, donc la deuxième partie, la section morale. Mais le paragraphe 33 nous renvoie aussi au numéro 366. Germe d'éternité qu'il porte en lui-même, irréductible à la seule matière, son âme ne peut avoir son origine qu'en Dieu seul. Numéro 366. Et là, on est encore dans la première section, sur le credo. Alors constamment, constamment, vous allez pouvoir justement voyager et compléter les affirmations que vous avez sous les yeux par des nuances, des compléments. Parfois, les compléments seront plus importants que ce que vous lisez. Alors, deuxième point au niveau de méthode de travail. On va rester dans ces pages-là. Prenez par exemple le numéro 33. Voilà. Le numéro 33 ne cite pas l'Écriture sainte, mais on cite. Qu'est-ce qu'on cite? GS, qu'est-ce que c'est? Le petit chiffre 3 renvoie à GS 18. Vous y êtes? Oui. Qu'est-ce que c'est GS? D'une espèce. Et comment vous faites pour le savoir? Vous allez au début du catéchisme. Oui, la table des signes. C'est au tout début. La table des sigles. Et vous avez Gaudium et Spes. Mais pas plus d'éclairage que ça, Gaudium et Spes. Gaudium et Spes, il faut savoir que c'est un document du Concile Vatican II. Bon. Maintenant, prenez le numéro 34. Numéro 34, il y a aussi une citation. La cause première et la fin ultime de tout est que tous appellent Dieu. Ça renvoie à un texte de saint Thomas d'Aquin. Somme théologique. Somme théologique, STH, première partie, question 2, article 3. Le catéchisme de l'Église catholique est avare de précision concernant ses sources. Je vous ai dit que pour Jean-Paul II, par exemple, on va vous donner en pleine page des références parfois, mais parfois il n'y a aucune référence. On peut trouver vraiment que c'est un texte de Jean-Paul II, mais qui n'est pas référé. On peut trouver aussi des textes du Père Marie-Eugène dans le catéchisme, mais qui ne sont pas référés. Le rédacteur du catéchisme de l'Église catholique a beaucoup de liberté par rapport à ses sources. Évidemment, il les réfère, parce qu'il donne des explications chaque fois, mais vous voyez que si nous n'avons pas une introduction, eh bien nous ne savons pas que STH 1, 2, 3, c'est la première partie de la somme de théologie, question 2, article 3. Nous ne savons pas non plus que DS, ça signifie Denzinger. Vous voyez la note 5 du numéro 36. La Sainte Église, notre Mère, tient et enseigne que Dieu, principe et fin de toute chose, peut être connu avec certitude par la lumière naturelle de la raison humaine à partir des choses créées. Concile Vatican I, Denzinger, 3004. Et DV, Dei Verbum, Concile Vatican II, numéro 6. Denzinger, DS, qu'est-ce que c'est? C'est un ouvrage qui rassemble, grâce au travail de M. Denzinger et de son collègue, qui ont commencé déjà à la fin du 19e siècle, et c'est un travail qui a été complété jusque récemment. Donc, ce livre est un instrument de travail extraordinairement important parce qu'il réunit toutes les définitions dogmatiques de tous les conciles œcuméniques de l'histoire. Dans le texte grec, lorsque les symboles, lorsque les textes ont été promulgués dans le grec, dans le texte latin, lorsque les textes ont été promulgués en latin. Vous avez en deux colonnes, le latin et la traduction, le grec et la traduction. Et vous avez des introductions aussi qui sont bonnes concernant la situation de ces textes. À l'occasion de tel concile, à l'occasion de tel développement, de tel courant hérétique, les pères ont convoqué un concile, etc. Texte capital, Denzinger, DS, DS. Alors, l'auteur, son nom, c'est Denzinger. Alors, quand on dit Denzinger, le Denzinger, c'est ça. Et son abréviation, pour le reconnaître dans tous les textes scientifiques, dans tous les articles, en tout cas, dans le catéchisme, c'est DS. Dès que vous voyez DS, vous pouvez vous dire, tiens, et alors, avec un peu de courage, vous ouvrez votre Denzinger, et là, vous trouvez le contexte du texte. Donc, vous avez catéchisme. Le catéchisme, c'est CEC, catéchisme de l'Église catholique. Dans le catéchisme, vous avez une page dans laquelle vous avez un tout petit texte du Concile Vatican I. Mais si vous avez la curiosité d'aller voir le contexte dans lequel est cité ce texte du Concile Vatican I, eh bien vous tombez sur, par exemple, la définition Filii des donc il y a un grand texte sur la révélation divine du Concile Vatican I, et là, vous trouvez le contexte et vous découvrez pourquoi le Concile Vatican II ou le catéchisme a repris ce texte. Et remarquez que ce texte-ci, dans notre catéchisme de l'Église catholique, dans la note 5, ce texte-ci est associé à DV6. C'est-à-dire que DV6, c'est Dei Verbum 6. Donc, évidemment, dans le texte de Vatican I qui est cité dans le catéchisme, il n'y a pas Dei Verbum, parce que Dei Verbum, ça vient en 1962. Vatican I, c'est à la fin du 19e siècle. Mais le catéchisme ici rattache le texte du Vatican I à Dei Verbum. Ça veut dire que Vatican II a assumé cette doctrine du Vatican I. Mais on a préféré citer Vatican I et non pas Vatican II. Pourquoi ? Voilà. C'est là que commence, vous voyez, le travail profond sur le catéchisme. Pourquoi le rédacteur ici, là, à propos de la connaissance de Dieu, connaissance possible par la raison, hein, pourquoi est-ce que le catéchisme a cité Vatican I, et que le rédacteur a bien pris soin de montrer que Vatican II a assumé cette doctrine. Mais on n'a pas cité Vatican II. Pourquoi ? Parce que le texte de Vatican est une définition de Vatican. Et que si nous n'adhérons pas à cette définition, nous ne sommes pas catholiques. Alors, Vatican II a repris ce texte, mais ça n'a pas la même force parce que la définition ici, le texte de Dei Verbum, n'a pas la même autorité que le texte de Vatican I, qui est une définition dogmatique, un dogme. Alors vous voyez un peu les difficultés qui se présentent pour interpréter notre catéchisme. On va travailler dans un texte où il y a une superposition de grands textes qui ont autorité dans l'Église, mais nous allons devoir chaque fois découvrir quelle est la charge de l'autorité qui est là. Quand je vous dis on cite Jean-Paul II à pleine page, eh bien, tant mieux. Hein? Mais quand on vous cite une encyclique de Jean-Paul II, c'est pas la même chose. Et quand on vous cite un texte de Vatican II qui assume un texte de Léon XIII, ou un texte de... Vous voyez, on vous cite Vatican II, vous cherchez dans le texte, vous trouvez que le texte cite un concile antérieur, et vous trouvez, en cherchant dans ce texte, que ce texte-là s'appuie sur Saint Léon, sur Saint Léon le Grand, au IVe siècle, et vous trouvez que Saint Léon s'appuie sur Saint Jean, etc. Vous comprenez ? Et donc, mais si vous en restez au texte de Vatican II, mais vous ne voyez pas cette superposition, vous ne voyez pas cette structure. Donc tout le travail qui est devant nous, c'est un travail. D'abord, moi, je suis payé pour vous intéresser à ça. Je ne suis pas payé pour faire le travail avec vous, sauf quelquefois, nous allons faire quelquefois. Mais c'est pour vous dire que c'est archi intéressant. Parce que vous avez le travail dans deux sens. C'est-à-dire que parfois, on va vous citer un texte de l'Écriture, Jean 3, 14, disons, et puis, ce texte-là va... Autour de ce texte-là, dans le catéchisme, vous allez voir s'organiser certains paragraphes. Bon. C'est un texte qui va être fondateur, mais qui va permettre une floraison de textes qui ont autorité aussi. Et puis, c'est contraire, parfois c'est contraire. C'est-à-dire que vous avez un texte du magistère qui est récent et qui va vous faire remonter jusqu'à l'écriture. Dans les deux sens, ça va dans les deux sens. Alors, sans tarder, maintenant, un dernier point concernant la méthode de travail du catéchisme. Il y aurait beaucoup à dire, mais on va le vérifier au fur et à mesure qu'on avance. Donc, ces textes qui sont en petits caractères, une citation de saint Augustin, de saint Paul, etc., sont souvent des textes capitaux. Quelle est la fonction de ces citations? C'est une fonction de vérification. Le catéchisme affirme quelque chose. La preuve, c'est que les pères l'ont dit. Saint Augustin en parlait déjà, etc. Alors, je vais vous donner un texte. Qui va déjà vous accrocher. Donc c'est en Christologie. Vous allez prendre le numéro 430. C'est simplement une petite ponction, encore une fois. Numéro 430. Nous n'allons pas analyser ce texte maintenant. Mais c'est juste pour vous voir un petit peu la superposition justement des autorités. Diverses autorités qui sont citées. Jésus veut dire en hébreu, Dieu sauve. Lors de l'Annonciation, l'ange Gabriel lui donne comme nom propre le nom de Jésus, qui exprime à la fois son identité et sa mission. Vous avez un petit chiffre ici, qui vous renvoie en bas de page. Chaque fois que vous avez un appel de notes, vous êtes renvoyé donc en bas de page. En bas de page, on vous donne « Confère, Luc 1.31 ». Pourquoi c'est « Confère » ? Voyez la différence entre un « Confère » et puis le texte suivant. « Puisque Dieu seul peut remettre les péchés », ouvrez la parenthèse, Marc 2.7. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis un chiffre avec « Confère Marc 2.7 » en bas de page? Parce qu'il y a deux façons de citer l'Écriture.
Luc n'est pas cité. C'est l'idée de Luc qui est reprise.
Voilà. Oui. Mais attention. Attention. Donc, il y a une petite difficulté qui se loge ici. Et la question que je vous pose est là pour dénicher le piège. Mais quel texte de l'Écriture a le plus d'autorité dans le paragraphe 430? Est-ce Luc 1.31 ou bien est-ce Marc 2.7? Voilà. Vous ne devez pas répondre à cette question. Vous ne devez pas répondre à cette question. C'est une question piège. L'autorité de l'Écriture, l'auteur du catéchisme, se permet justement de s'y référer de deux façons. Mais ce n'est pas parce qu'il n'a pas ouvert les guillemets que le texte est moins important. Mais là où il a ouvert les guillemets, il a simplement donné la référence dans le texte, c'est tout. Méfiez-vous, parce que quand il y a une référence en bas de page, parfois le texte est très important, peut-être plus que celui qui est cité en texte. Alors, il y a le texte de l'Écriture cité avec des guillemets. Il y a le texte de l'Écriture cité en bas de page, Et il y a le texte de l'Écriture cité sans référence. Aucune. Donc, avis à ceux qui connaissent l'Écriture et qui voient pourquoi est-ce que le catéchisme n'a pas mis une référence. Donc, alors voyez la page suivante. Vous avez un très très bel exemple de la dimension compacte d'un texte du catéchisme. Vous voyez le numéro 432. Le numéro 432 comporte la note 5, confère acte. Bon, on ne lit pas le texte, mais c'est juste pour voir un peu. Il y a la note 2 aussi de la page suivante, vous y êtes? Non, peut-être pas, parce que vous n'avez pas la même pagination. Donc, et il peut désormais être invoqué de tous, car il s'est uni à tous les hommes par l'incarnation. Note 2, oui. Gaudium et Spes. Note 2. Pardon. C'est Romain 10, hein? Voilà. Mais ça vous dit quelque chose? Il s'est uni à tous les hommes par l'incarnation? Bon, c'est encore un autre texte que j'ai cité tout à l'heure, mais je l'avais pas. Moi, j'ai mis Gaudium et Spes 22 en marge parce que c'est un texte de Gaudium et Spes qui est cité ici. De telle sorte qu'il n'y a sous le ciel d'autres noms donnés aux hommes par lesquels nous puissions être sauvés. Ouvrez les guillemets, fermez les guillemets, acte 4. Note 3. Confère acte 9. Jean, Jacques 2. Et regardez, c'est la même expérience pour la note 4 qui suit, la note qui suit, au numéro 433. Le nom du Dieu Sauveur était invoqué une seule fois par an, etc. Avec le sang du sacrifice. Note. C'est la note. Qu'est-ce que vous avez comme note, vous? Bon. Mais qu'est-ce que vous avez comme référence? Lévitique 15, Siracide, Hébreu 9, vous pouvez ajouter Romains 3, 25, Luc 18, etc. Vous voyez? Et donc, on est complètement submergé par l'Écriture. La richesse du catéchisme, c'est l'Écriture sainte. La richesse du catéchisme, c'est l'Écriture sainte. C'est le magistère de Jean-Paul II, ça. Constamment, il cite constamment l'Écriture sainte. Il a voulu que le catéchisme soit un tissu d'Écriture sainte, pour que les fidèles s'abreuvent de nouveau à la parole de Dieu. Mais on est abreuvé, mais en même temps, on est submergé. On est un peu... noyé. Ben, c'est bien si on est accompagné dans le travail de lecture. Parce que concernant la propitiation ici, vous voyez, par son propre sang, Dieu l'a destiné à être propitiatoire par son propre sang. Romains 3, 25. Mais vous ne savez pas ce que c'est que le propitiatoire. Alors, il faut aller chercher dans l'index. Dans la table analytique plutôt, le propitiatoire. Oui, numéro 433.
C'est
oui, c'est celui-là. Est-ce qu'il y a d'autres références? Propitiation, 1992. 1992. Surtout, il faut justement prendre notre Bible et chercher les notes. Dans les notes, vous avez souvent des éclairages très très nets et très simples sur la propitiation. Qu'est-ce que c'est? Et nous, justement, dans notre cours, nous allons développer justement la rédemption. Donc nous allons faire intervenir toutes ces notions-là. Alors, moi, je vais vous donner des clés pour que vous puissiez commencer à lire le catéchisme sans vous décourager, si vous voulez. C'est ça le problème. C'est ça le but de cette session. Ça va? Alors, nous commençons notre cours avec cette introduction d'une heure. Si vous voulez vous poser maintenant, peut-être, non? Hein? Vous voulez vous reposer un peu? Oui. Prenez une pause de 5 minutes et puis on se retrouve à 10h05, si vous voulez. Hein? Ça vous permettra de souffler un petit peu.